Chapitre 2. Michelle Lavonne Robinson exerçait déjà le droit quand nous nous sommes rencontrés. Elle avait 25 ans et elle était associée dans le cabinet Sidley & Austin, basé à Chicago, où je suis allé travailler l'été après ma première année de droit. Elle était grande, belle, drôle, pleine d'entrain, généreuse et d'une intelligence redoutable. Et je suis tombé sous son charme au premier regard. Le cabinet l'avait chargé de me prendre sous son aile, de s'assurer que je savais où se trouvait la photocopieuse et qu'on me faisait bon accueil. Cela voulait dire aussi que nous allions souvent déjeuner ensemble, ce qui nous permettait de discuter tranquillement de notre travail dans un premier temps et bientôt de tout le reste. Au cours des deux années suivantes, pendant les vacances et quand Michel venait à Harvard avec l'équipe de Sidley chargée de trouver de futures recrues pour le cabinet, nous allions dîner ensemble et nous promener le long du fleuve Charles, parler de cinéma, de nos familles, des endroits du monde que nous avions envie de visiter. Quand son père est brutalement décédé des suites d'une sclérose en plaques, j'ai sauté dans un avion pour être auprès d'elle, et elle m'a réconforté à son tour quand j'ai appris que Gramps souffrait d'un cancer de la prostate à un stade avancé. Bref, nous sommes devenus non seulement un couple, mais des amis l'un pour l'autre. Et quand la fin de mes études à Harvard s'est profilée à l'horizon, nous avons timidement commencé à envisager la possibilité de nous installer ensemble. Un jour, je l'ai emmené dans un atelier d'initiative sociale que j'avais accepté d'animer à la demande d'un ami qui dirigeait un centre associatif dans le quartier du Southside. Les participants étaient principalement des mères célibataires, dont certaines vivaient des allocations, et elles étaient peu nombreuses à posséder des compétences susceptibles de leur permettre de trouver du travail. Je leur ai demandé de décrire leur monde tel qu'il était et tel qu'elles auraient aimé qu'il soit. C'était un exercice tout simple, auquel j'avais souvent eu recours, un moyen pour les gens d'établir un pont entre leur vie au sein de leur communauté et les changements qui étaient à leur portée. À la fin de cet atelier, alors que nous regagnions notre voiture, Michel a glissé un bras sous le mien et m'a dit qu'elle avait été touchée par l'aisance avec laquelle je m'étais adressé à ces femmes. « Tu leur as donné de l'espoir. »« L'espoir ne suffit pas, elles ont besoin d'autre chose », ai-je répondu. Je lui ai parlé alors du dilemme qui me tourmentait, l'envie d'œuvrer pour le changement à l'intérieur du système, tout en luttant contre celui-ci. L'envie de diriger, mais aussi de donner aux gens les moyens de faire évoluer les choses par eux-mêmes. L'envie de faire de la politique sans faire partie du monde politique. Michel s'est tourné vers moi. « Le monde tel qu'il est le monde tel qu'il devrait être », a-t-elle dit d'une voix douce. « Quelque chose comme ça, oui. » Michel était unique en son genre. Je n'avais encore jamais rencontré quelqu'un comme elle. Et même si le moment n'était pas encore venu, je commençais à songer que je pourrais bien la demander en mariage un jour. Pour Michel, le mariage allait de soi. C'était l'étape suivante naturelle dans une relation aussi sérieuse que la nôtre. Pour ma part, moi qui avais été élevé par une mère deux fois divorcée, je ne ressentais pas le même besoin d'officialiser les choses. Par ailleurs, dans les premiers temps de notre relation, il pouvait nous arriver de nous disputer violemment. Michel était aussi orgueilleuse que moi et ne cédait jamais un pouce de terrain. Son frère, Craig, star de l'équipe de basket de Princeton qui avait travaillé dans le milieu des banques d'affaires avant de devenir entraîneur, racontait souvent en riant que, dans leur famille, personne ne pensait que Michel, Mich, comme il la surnommait, se marierait un jour, parce qu'elle était trop dure. Aucun homme ne pourrait jamais tenir la route. Le plus étrange, c'est que ça me plaisait, cette façon qu'elle avait de toujours me mettre au défi et de m'inciter à rester droit. Et elle, que pensait-elle de tout cela? Je l'imagine, juste avant notre rencontre, un modèle de jeune femme professionnelle et dynamique, toujours tirée à quatre épingles, concentrée sur sa carrière et menant sa barque sans dévier, la tête sur les épaules. Et voilà que ce drôle de type de Hawaï déboule dans sa vie, avec ses frusques négligés et ses rêves chimériques. C'est justement ça qui l'avait séduite, m'avouerait-elle plus tard. Le fait que j'étais différent des hommes avec lesquels elle avait grandi et de ceux qu'elle avait fréquentés. Différent même de son père qu'elle adorait. Un homme qui n'avait pas fini ses études supérieures dans le public, qui avait été frappé par la sclérose en plaques peu après son 30e anniversaire, mais qui ne s'était jamais plaint, qui avait travaillé tous les jours de sa vie, qui avait accompagné Michel à tous ses spectacles de danse et Craig à tous ses matchs de basket, et qui avait toujours été là pour sa famille, sa plus grande joie et sa plus grande fierté. La vie à mes côtés, c'était la promesse d'autre chose pour Michel, de tout ce qu'elle n'avait pas pu connaître dans son enfance. L'aventure, les voyages, l'effacement de certaines contraintes. De même que son enracinement à Chicago, sa famille nombreuse, son pragmatisme, son désir par-dessus tout d'avoir des enfants un jour et d'être une bonne mère, représentaient pour moi la promesse d'un ancrage dont j'avais été privé pendant une grande partie de ma jeunesse. Entre nous, il ne s'agissait pas seulement d'amour, de fou rire, de valeurs partagées. Nous étions liés également par une symétrie. Nous étions complémentaires. Nous pouvions veiller l'un sur l'autre, pallier nos faiblesses respectives. Nous pouvions former une équipe. Bien entendu, tout cela n'est qu'une autre façon de dire que nous étions différents, tant en termes d'expérience que de tempérament. Pour Michel, la route qui menait au bonheur était étroite et semée d'embûches. On ne pouvait réellement compter que sur sa famille, on ne prenait pas de risques à la légère, et on n'était jamais dupe des signes extérieurs de réussite, une belle carrière, une belle maison, parce qu'on voyait partout autour de soi l'échec, la pauvreté et la menace du chômage ou d'une fusillade tapis en permanence au coin de la rue. Michel ne craignait pas de trahir ce qu'elle était, parce qu'avoir grandi dans le South Side signifiait qu'on était toujours un outsider, d'une manière ou d'une autre. Les obstacles à la réussite étaient très clairs dans son esprit. Inutile d'aller les chercher bien loin. Si l'on pouvait parfois se retrouver en proie au doute, c'est parce qu'il fallait constamment prouver, quand bien même on collectionnait les succès, qu'on avait sa place à table. Et il fallait le prouver non seulement à tous ceux qui doutaient de vous, mais aussi à soi-même. Alors que ma dernière année de droit touchait à sa fin, j'ai confié mes projets à Michel. Je ne serai pas assistant juridique. Je retournerai à Chicago, où je continuerai à œuvrer dans le domaine social tout en exerçant dans un petit cabinet spécialisé dans les droits civiques. Et si jamais une bonne occasion se présentait, ai-je ajouté, pourquoi pas briguer un poste d'élu dans la fonction publique? Elle n'a pas été surprise le moins du monde. Elle était sûre, m'a-t-elle dit, que je ferais toujours les choix qui me paraissaient les plus justes. Mais je dois dire, Barack, m'a-t-elle prévenu, que ce que tu envisages de faire me paraît très difficile. J'aimerais avoir ton optimisme. Ça m'arrive parfois, mais les gens peuvent être terriblement égoïstes et tout simplement ignorants. Je crois que beaucoup d'entre eux ne veulent pas entendre parler de tout ça. Et j'ai le sentiment qu'il y a plein de gens en politique qui sont prêts à tout pour obtenir le pouvoir. Des gens qui ne pensent qu'à eux, surtout à Chicago. Je ne suis pas sûr que tu puisses changer ça. Mais je peux toujours essayer, non ? Ai-je répliqué en souriant. À quoi ça sert d'avoir un beau diplôme de droit si on ne prend pas quelques risques ? Et si ça ne marche pas, ça ne marche pas, c'est tout. Tout ira bien pour moi. Pour nous. Elle a pris mon visage entre ses mains. Tu as déjà remarqué que quand tu as le choix entre la facilité et la difficulté, tu choisis la difficulté à tous les coups ? Ça vient d'où, ça, à ton avis ? Nous avons ri. Mais j'ai bien vu que Michel pensait avoir l'intuition de quelque chose. Une intuition qui allait se révéler lourde de conséquences pour tous les deux. Au bout de quelques années, Michel et moi nous sommes mariés à la Trinity United Church of Christ, le 3 octobre 1992, devant plus de 300 personnes, amis, collègues et membres de nos familles respectives, tous joyeusement serrés sur les bancs de l'église. La cérémonie était célébrée par le pasteur de la paroisse, le révérend Jeremiah A. Wright Jr., que j'avais rencontré à l'époque où je travaillais dans le domaine associatif et pour qui j'avais une grande admiration. Nous étions heureux. C'était le coup d'envoi officiel de notre avenir ensemble. J'avais passé l'examen du barreau, puis je m'étais mis en disponibilité pour un an afin de me consacrer au projet Vote, en vue de l'élection présidentielle de 1992, l'une des plus importantes campagnes d'inscription sur les listes électorales de toute l'histoire de l'Illinois. De retour de notre voyage de noces sur la côte californienne, j'ai enseigné à la fac de droit de l'Université de Chicago. J'ai fini d'écrire mon livre et j'ai officiellement rejoint Davis, Miner, Barnhill et Galland, un petit cabinet d'avocats des droits civiques spécialisé dans les discriminations à l'embauche et les négociations immobilières destinées à faciliter l'accès aux logements sociaux. Michel, de son côté, ayant décidé qu'elle avait fait le tour du droit des entreprises, est allée travailler pendant un an au département de l'urbanisme de Chicago, avant d'accepter de prendre la tête de Public Allies, un programme bénévole de formation des jeunes dirigeants. Nous aimions tous deux ce que nous faisions et les gens avec qui nous travaillions. Et au fil du temps, nous nous sommes impliqués dans diverses initiatives civiques et philanthropiques. Nous allions dîner en ville, assister à des matchs de basket et à des concerts avec des amis dont le cercle ne cessait de s'élargir. Nous avons pu nous acheter un appartement, modeste mais confortable, dans le quartier de Hyde Park, en face du lac Michigan et de la péninsule de Promontory Point, tout près de la maison où vivaient Craig et sa jeune famille. La mère de Michel, Marianne, habitait encore dans la maison de famille de South Shore, à moins d'un quart d'heure de chez nous. Nous allions souvent la voir et nous nous régalions tous ensemble de ses spécialités, poulet frit, légumes verts et red velvet cake, ou des barbecues de l'oncle Pete. Une fois repus, nous nous installions dans la cuisine pour écouter les oncles de Michel raconter des anecdotes de leur enfance, et les éclats de rire résonnaient jusque tard dans la soirée, tandis que les cousins, cousines, neveux et nièces faisaient des cabrioles sur les coussins du canapé, jusqu'à ce que leurs parents les envoient jouer dans le jardin. Dans la voiture, sur le chemin du retour, au crépuscule, Michel et moi parlions parfois des enfants que nous aurions un jour, nous aussi. À quoi ils ressembleraient, ou combien nous en voulions, et pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas un chien. Et nous imaginions tout ce que nous ferions ensemble, en famille. Une vie normale, productive et heureuse. Cela aurait dû nous suffire. Mais soudain, à l'été 1995, une opportunité politique s'est présentée, à la suite d'un curieux enchaînement d'événements. Le député de la deuxième circonscription de l'Illinois à la Chambre des représentants, Mel Reynolds, avait été mis en examen sous plusieurs chefs d'accusation. Il était notamment soupçonné d'avoir eu des relations sexuelles avec une bénévole de sa campagne, âgée de 16 ans. Si jamais il était reconnu coupable, une élection anticipée serait organisée pour le remplacer. Je n'habitais pas dans cette circonscription, mon nom n'était pas assez connu et je n'avais pas suffisamment de soutien pour envisager de briguer un siège au Congrès. Mais la représentante de notre circonscription au Sénat de l'Illinois, Alice Palmer, était éligible et elle s'est lancée dans la course peu avant la condamnation du député au mois d'août. Ancienne éducatrice sociale, afro-américaine, Palmer avait de solides attaches dans la communauté. Son bilan était honorable, sans être exceptionnel, et elle jouissait d'une certaine popularité dans les cercles progressistes ainsi que chez certains militants noirs historiques qui avaient contribué à l'élection de Harold Washington. Et si je ne la connaissais pas personnellement, nous avions des amis en commun. Le travail que j'avais accompli pour le projet Vote m'a valu d'être appelé à rejoindre sa campagne, qui n'en était encore qu'à ses balbutiements. Et au fil des semaines, plusieurs personnes m'ont encouragé à réfléchir à la possibilité de me présenter aux élections pour remplacer Alice, dont le siège au Sénat de l'Illinois serait bientôt vacant. Avant d'en parler à Michel, j'ai dressé une liste des pour et des contre. Le poste de sénateur d'État n'avait rien de très reluisant. La plupart des gens ne savaient absolument pas qui étaient les représentants de l'État dans lequel ils vivaient. Et Springfield, la capitale de l'Illinois, était connue pour être une ville où se perpétuaient les bonnes vieilles pratiques douteuses du jeu politique. Octroi de faveurs illicites, échange de bons procédés et autres pots de vin. D'un autre côté, il fallait bien que je commence quelque part et que je fasse mes preuves. Et puis, la législature de l'Illinois ne siégeait que quelques semaines par an, ce qui voulait dire que je pourrais sans problème continuer à enseigner et à travailler au cabinet. Mieux encore, Alice Palmer acceptait d'apporter son soutien officiel à ma candidature. Le procès de Reynolds n'ayant pas encore eu lieu, il était difficile d'y voir clair dans le calendrier à venir. D'un point de vue technique, Alice pouvait se présenter au Congrès tout en gardant l'option de conserver son siège au Sénat de l'Illinois si jamais elle perdait. Mais elle m'avait affirmé de manière catégorique, à moi comme à d'autres, qu'elle en avait terminé avec la politique locale et qu'elle était prête à passer à autre chose. Ajoutez à cela une offre de soutien de la part de notre conseillère municipale, Tony Preckwinkle, qui pouvait se vanter de disposer des meilleures équipes de la circonscription, et mes chances de l'emporter semblaient plutôt bonnes. Je suis allé voir Michel et je lui ai présenté mes arguments. « Vois ça comme un galop d'essai », lui ai-je dit. « Ouais. Une façon de mettre le pied à l'étrier. Je vois. Alors, qu'est-ce que tu en penses ?» Elle m'a planté un baiser sur la joue. « J'en pense que tu en as envie, alors tu devrais le faire. Promets-moi simplement que je ne serai pas obligé d'aller à Springfield. » Il restait une personne dont je devais obtenir la bénédiction avant d'appuyer sur la gâchette. Peu de temps auparavant, ma mère était tombée malade et on lui avait diagnostiqué un cancer de l'utérus. Le pronostic n'était pas bon. Au moins une fois par jour, je sentais mon cœur se serrer à l'idée de la perdre. J'avais sauté dans un avion pour Hawaï dès que nous avions appris la nouvelle, et j'avais constaté avec soulagement qu'elle était toujours la même et qu'elle paraissait avoir le moral. Elle m'avait avoué qu'elle avait peur, mais qu'elle était prête à se soumettre au traitement le plus agressif possible. « Je ne m'en irai nulle part », avait-elle ajouté, « tant que tu ne m'auras pas donné des petits-enfants. » Elle a accueilli l'annonce de ma possible candidature au Sénat de l'Illinois avec son enthousiasme coutumier, insistant pour que je lui raconte tout dans les moindres détails. Elle a reconnu que ce ne serait pas facile, mais ma mère avait toujours été du genre à envisager les difficultés sous un angle positif. « Assure-toi bien que Michel est partante », m'a-t-elle dit encore. « Non pas que je sois la plus grande autorité en matière de couple, et je t'interdis de te servir de moi comme prétexte pour renoncer. J'ai bien assez à faire comme ça pour ne pas devoir en plus avoir l'impression que tout le monde autour de moi met sa vie entre parenthèses. Ce serait morbide, tu comprends ?»« Compris. » 7 mois plus tard, la situation allait prendre un tour plus sombre. En septembre, Michel et moi étions allés à New York retrouver Maya et ma mère pour consulter un spécialiste à l'hôpital Memorial Sloan Kettering. Elle était alors en pleine cure de chimiothérapie et physiquement méconnaissable. Ses longs cheveux noirs avaient disparu, ses yeux avaient l'air vides. Pire, le spécialiste nous avait annoncé qu'elle en était au stade 4 de la maladie et que les options thérapeutiques étaient désormais limitées. Je regardais ma mère sucer des glaçons parce que ses glandes salivaires ne fonctionnaient plus. Et je m'efforçais de faire bonne figure. Je lui ai raconté quelques anecdotes amusantes sur mon travail et l'intrigue d'un film que j'avais vu récemment. Nous avons ri en écoutant Maya, de 9 ans ma cadette et alors étudiante à New York University, me rappeler à quel point j'aimais jouer au petit chef avec elle pendant notre enfance. J'ai pris la main de ma mère et je me suis assuré qu'elle était bien installée avant de la laisser se reposer. Puis je suis rentré à l'hôtel et j'ai pleuré. C'est pendant ce séjour à New York que j'ai suggéré qu'elle vienne vivre chez nous à Chicago. Ma grand-mère était trop vieille pour s'occuper d'elle à plein temps. Mais ma mère, qui demeurerait l'architecte de sa propre destinée jusqu'à son dernier souffle, a refusé. « Je préfère rester dans un endroit que je connais et où il fait chaud », a-t-elle déclaré en se tournant vers la fenêtre. Je suis resté assis à côté d'elle, impuissant, songeant au long chemin qu'elle avait parcouru, aux nombreux détours inattendus qui avaient jalonné son existence pleine de rebondissements heureux. Jamais, pas une seule fois, je ne l'ai entendu s'épancher sur les moments tristes de sa vie. Au contraire, on aurait dit qu'elle trouvait de petits plaisirs dans chaque occasion. Jusqu'à maintenant. « La vie est étrange, non ? » a-t-elle dit d'une voix douce. « Oui, très étrange. »